Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 21 avril 2024. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois l'autrice et animatrice Josée Bournival. Laurence Létourneau-Pilon de la librairie Le Sentier nous propose ses coups de cœur de libraire en lien avec les voyages et l'aventure. Et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Virginie Martel, professeur et chercheur à l'UQAR, qui nous parle de Jack, son limier voyageur, rempli de livres illustrés. Et c'est Raphaël Baillargeon qui investit la tribune littéraire et qui nous dit ce qu'elle pense de la série Lightfall. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse ou qui les font lire. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui en lit beaucoup, des livres jeunesse, particulièrement des livres illustrés, et surtout qui a à cœur de faire voyager ses livres jusqu'aux gens pour qui c'est une rareté. Bonjour Virginie Martel.
Bonjour Marie, je vous remercie pour l'invitation.
Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir à Imagémo à voix haute. Virginie, on va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous avez une formation en histoire et en éducation primaire et secondaire. Vous êtes professeur-chercheur en didactique des sciences humaines à l'UQAR, ça c'est l'Université du Québec à Rimouski, au campus Lévis, et chercheur associé du CRIPFE, ça c'est le Centre de recherche interuniversitaire et sur la formation et la profession enseignante. Alors là, c'est on rentre dans le festival de l'acronyme. Hein. Vous avez cofondé avec Jean-François Boutin le LIMIER, un regroupement en recherche sur la littératie illustrée. Alors ça veut dire littéralement littératie illustrée, médiathèque, intervention, éducation et recherche. Vous êtes aussi chercheur au sein du groupe de recherche en littératie médiatique multimodale, le LMM, qui s'intéresse particulièrement à la littératie contemporaine. Depuis 2 ans, vous faites voyager des centaines de livres avec Jack, un Vanagon Vaux 1989, qui est aussi connu comme le Limier Voyageur. Vous le faites voyager en milieu rural, principalement dans la région de Chaudière-Appalaches, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a, Virginie, un lien entre la didactique des sciences humaines que vous enseignez et votre intérêt ou votre amour, qui sait, pour les livres illustrés pour les enfants?
Oui, c'est une bonne question. En fait, de prime abord, j'ai toujours été intéressée par la littérature jeunesse, là, d'abord comme jeune lectrice, puis ensuite comme maman, puis comme enseignante au primaire, au secondaire, parce que j'ai évolué dans les écoles primaires et secondaires, puis maintenant comme professeure à l'université. Puis lorsque j'ai cofondé le fameux Limier là, consacré à la littérature et à la littératie illustrée, j'avais vraiment à cœur de mettre en lumière toutes les potentialités pédagogiques, éducative, des œuvres illustrées, des albums avec des images, qu'ils soient documentaires ou de fiction, entre autres pour enseigner l'histoire et la géographie, qui sont deux disciplines très complexes pour les élèves, particulièrement les élèves du primaire, parce que pour des enfants, c'est très difficile de se faire des images du passé ou de l'ailleurs. Et je trouvais qu'avec les albums jeunesse, par exemple, je pouvais leur offrir une vision de ce passé ou de cet ailleurs que je voulais leur raconter. Donc, c'est tranquillement comme ça que j'ai introduit la littérature jeunesse, même dans ma pratique de formation des maîtres, puis dans ma pratique de chercheur pour l'enseignement de l'histoire.
Oh, c'est super intéressant.
Oui.
Oui. C'est quoi la mission du LIMIER, le regroupement de recherche sur la littérature illustrée que vous avez cofondé?
Ben, sa mission, donc le LIMIER, un fameux acronyme là, donc, qui veut dire toutes sortes de choses, mais surtout, donc, les dernières lettres du LIMIER, là, c'est médiathèque, donc le M pour une médiathèque parce qu'on voulait bâtir un corpus d'œuvres qui serait accessible à nos étudiants que l'on formait, mais aussi à tout le milieu de pratique. On passe nos volumes, les élèves peuvent les consulter, il y a des classes qui les reçoivent, etc. Donc, il y avait cette idée de médiathèque où on faisait une veille de tout ce qui sortait en œuvres illustrées. Et il y avait une mission aussi qui relevait de l'intervention et de la recherche en éducation. Donc, intervenir en formation continue, intervenir auprès des enseignants qui désiraient se faire soutenir dans l'utilisation de la littérature jeunesse en classe, intervenir dans les milieux communautaires et puis ben, faire de la recherche parce que comme chercheur aussi, on a le mandat de faire de la recherche pour entre autres voir toutes les potentialités pédagogiques que peut avoir le recours à la littérature jeunesse en classe.
Et donc, vous avez voulu pousser plus loin. Pourquoi est-ce que vous avez mis le limier voyageur sur certaines routes du Québec? En quoi c'est une initiative éducative et citoyenne?
Ouais, le limier voyageur, c'est mon bébé là actuellement. C'est un prolongement mobile d'abord du groupe Limier, puis en même temps, ben c'est une initiative qui m'est plus personnelle parce que par exemple, j'assure les dépenses liées au camion, au fameux jack, là, tu sais, puis que je donne mon temps personnel, c'est pas de mon travail que je le fais. J'ai toujours rêvé là, depuis mon entrée dans le monde de l'éducation, on va le dire comme ça, de faire voyager les livres dans les milieux vulnérables où c'est plus difficile d'y accéder. Et puis, un peu comme le fait Jacques Poulain dans un roman que j'adore, qui est Tournée d'automne. Donc, c'était comme un rêve que je caressais. Puis, avec la pandémie, vraiment, là, ça m'a fouettée. Et là, je me suis dit, je dois concrétiser ce rêve de livre voyageur. Je voyais tous les livres de notre médiathèque. Il faut savoir qu'on a plus de 6 000 livres, 6 000 albums, bandes dessinées qui étaient dans notre médiathèque pendant la pandémie et qui dormaient littéralement. Et là, je me suis dit, je dois faire voyager ces livres, principalement sur le territoire de mon université, donc l'Université du Québec à Rimouski, donc du Bas-Saint-Laurent jusqu'à la région Chaudière-Appalaches, puisque je suis au campus de Lévis.
OK. Et qu'est-ce qu'il offre, ce limier voyageur?
Donc, le limier voyageur, en fait, là, actuellement, puis il est en développement. Hein. Ça fait 2 ans là, que je le déploie tranquillement avec mon équipe, avec des bénévoles, etc. Donc, il y a trois formules actuellement, là. On a la formule la plus visible, c'est le fameux Jack que vous avez évoqué en introduction, là, un vieux wanagon que j'ai de Volkswagen que j'ai transformé en bibliothèque mobile, on va le dire comme ça, dans lequel je mets plein de livres, des espaces de lecture. Les enfants les plus âgés peuvent lire à l'intérieur de Jack, comme ils peuvent vivre à l'extérieur parce que j'ai des tapis, des chaises, des tentes, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle mon voyageur routier, là. On parcourt les routes, on fait voyager les œuvres, etc. Et on le fait souvent avec notre amie Caravane littéraire qui a déjà passé à votre
Ah
émission
oui,
avec Catherine
Catherine
Lapointe.
Lapointe,
Oui,
oui.
tout à fait. Donc là, nos deux ouest se rencontrent et ça crée toujours toute une magie aussi que ces deux véhicules un peu vintage, remplis de livres, arrivent dans des zones où habituellement les livres sont moins importants ou du moins où l'accès est plus difficile. Puis j'ai une formule aussi que j'appelle mon voyageur éphémère, c'est-à-dire que sans avoir besoin du véhicule, je crée des espaces de lecture éphémère à l'intérieur quand c'est par exemple la saison hivernale ou l'été avec des tentes, des tapis, quelques livres pour des besoins particuliers. Et ma troisième formule, c'est ce que j'appelle mes voyageurs sac au dos. C'est la formule qui est le plus en développement actuellement. En fait, moi, je rêve d'une escouade de bénévoles, de voyageurs qui, avec un sac à dos rempli d'œuvres illustrées, iraient dans leur milieu en fonction des besoins, en fonction des opportunités. Donc, ça serait ma troisième formule, on pourrait le dire comme ça.
Qui compléterait la mission
Oui,
du limier voyageur. Et à
tout à
qui
fait.
vous les offrez ces services-là du limier? À quel moment et où? Tantôt, vous parliez des bienfaits des livres illustrés pour faire connaître le quand et le où. Alors, on va là.
Oui. Oui, en fait, les trois formules visent les tout petits comme les plus âgés. Je suis vraiment dans, tu sais, on parle de littérature jeunesse aujourd'hui, mais l'album illustré, que ce soit la bande dessinée ou l'album de fiction ou documentaire, offre l'avantage aussi de pouvoir intéresser tout à fait des adultes et des personnes âgées, parce que parfois la richesse de ces albums-là, les histoires qui y sont racontées peuvent trouver un grand écho aussi chez mes voyageurs lecteurs plus âgés, je vais le dire comme ça. Donc, vraiment, à l'égard des clientèles, je vous dirais qu'elles sont très diversifiées. Actuellement, bien sûr, ben, je dis bien sûr parce que comme mes interventions premières puis mon travail de chercheur m'a amené beaucoup à travailler auprès des jeunes, on a beaucoup déployé tout l'accompagnement pour les plus jeunes en milieu scolaire ou en milieu extrascolaire. Donc, par exemple, avec le programme LIDCAM
Oui.
qui a été mis en place là, par des organismes municipaux, différentes instances régionales de concertation là, pour la réussite éducative. Donc, ce programme LIDCAM-là, je suis associée avec PRECA, qui travaille, là, qui est un autre acronyme pour parler de concertation pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Pris la responsabilité dans les MRC orphelines, c'est-à-dire que là où les municipalités n'avaient pas un organisme sur place qui était prêt à prendre en charge, parce que moi, je veux assurément pas aller là où il y a déjà des services. L'idée, c'est pas de doter quoi que ce soit à qui que ce soit, donc je vais plutôt là où il y a un bris de service. Donc là où il y avait un bris de service, on a pris la responsabilité. L'année dernière, par exemple, on a eu plus de 135 groupes d'enfants dans 29 municipalités différentes à qui on a fait 272 animations littéraires au cours de la période des camps de vacances dans les différentes municipalités.
C'est très,
Donc
très
ça, c'est très
impressionnant.
impressionnant. Oui, puis on le refait cette année avec encore plus de municipalités et encore plus de groupes. Hier, j'étais justement avec Préca de nouveau, qui est mon partenaire financier et logistique dans ce projet-là, et on parlait d'à peu près 8 000 enfants qui seraient touchés cet été.
Vous
Donc,
l'avez
ça, c'est.
mentionné, excusez-moi, vous avez
Oui.
vous avez établi des partenariats avec des organismes,
Oui.
des gens du milieu du livre. Vous avez mentionné Préca. Est-ce qu'il y en a
Oui.
d'autres?
Oui, il y a d'autres organismes. En fait, il faut savoir que tout d'abord, pour partir le projet il y a 2 ans, j'ai reçu un soutien de la Fondation de l'UQAR de mon université, donc la fondation de mon université, pour un soutien de démarrage, pour vraiment partir le projet, engager des étudiants avec moi aussi durant l'été, notamment pour ce projet LIDCAM, pour faire des animations avec moi, renouveler aussi certains achats, parce que même si notre médiathèque était fournie, il y avait certains ouvrages que je souhaitais acquérir et aussi acquérir des nouveautés. Parce que j'ai beaucoup à cœur dans les communautés vulnérables que je vais visiter, que les jeunes et les moins jeunes avec qui je vais à la rencontre puissent avoir entre les mains des livres neufs ou quasi neufs, là. Pas des vieux livres
En
comme
bon
ils disent
état.
souvent. On est habitué d'avoir des vieilles choses, mais là, il est tout beau. Tu sais, même que on fait craquer les livres, comme je dis. Veux-tu le craquer avec moi pour la première fois parce qu'il n'a jamais été ouvert? Donc, alors, j'ai eu ce soutien très, très aidant de la Fondation de l'UQAR. Et puis, j'ai bien sûr aussi des partenariats qui ne sont pas de l'ordre financier, mais comme je nommais Caravane littéraire tout à l'heure, tu sais, avec
Oui.
qui discute, qu'on réfléchit, qu'on partage notre passion, qu'on voit comment on pourrait faire. J'essaie de plus en plus de créer des partenariats aussi avec les organismes qui ont des missions communes à celles du Limier. Ce matin, j'étais avec une équipe de formation sur le programme Lire et faire lire, où des aînés
Oui.
lisent aux plus jeunes. Alors, j'aimerais aussi bâtir des collaborations comme ça, bâtir des collaborations aussi avec les milieux avec lesquels je travaille, avec les municipalités, avec les décideurs des MRC, parce que je pense vraiment que c'est main dans la main qu'on peut le faire. Et tranquillement, j'ai aussi, et ça me rend très heureuse, des collaborations avec le milieu de l'édition québécoise. Donc, pour l'instant, j'ai les éditions 400 coups et les éditions Fonfon qui sont partenaires du projet, donc qui me permettent d'acquérir des livres à moindre coût et
Oui.
même qui me donnent certains livres, parfois, tu sais, comme pour pouvoir faire connaître leur collection, etc. Et j'ai un partenariat aussi avec une librairie de Lévis, la librairie Chouinard, où j'achète l'entièreté de mes livres, presque, là.
Oui.
Et puis, donc, pour justement, j'ai aussi à cœur de faire rayonner les entreprises qui sont locales autour de mon territoire.
Ah, c'est bien. Les clientèles que vous voudriez rejoindre en 2024, dans les prochaines années, c'est qui?
Bien, les clientèles principales, comme je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé beaucoup là, pour les jeunes dans le milieu scolaire et extrascolaire avec le programme LIDCAM. J'ai commencé l'année dernière, j'ai eu une première animation, par exemple, à Lévis interculturel, qui est un événement pour célébrer la diversité et puis la part de l'immigration.
Ah
J'aimerais
oui.
beaucoup ouvrir le Limier voyageur justement à cette clientèle, à ces nouveaux arrivants, parce que je pense que l'album illustré peut être un médium de communication à travers l'image, à travers des mots qui parfois peuvent être plus simples. On peut se comprendre, on peut parler de thématiques parfois plus douloureuses. Je l'ai fait l'année dernière, justement, les vies interculturelles avec un corpus de livres qui parlait de migration, d'émigration, des défis d'intégration, de l'inclusion, de l'ouverture à l'autre. Ça a eu vraiment un écho extraordinaire. Donc, j'aimerais vraiment renouveler ce type de partenariat, aller vers les communautés aussi immigrantes qui vivent en région. Hein, de plus en plus, ils sont installés, mais ils sont parfois isolés. Les liens sont plus difficiles à créer. Donc, j'aimerais beaucoup aller de ce côté-là. Et avec les personnes âgées aussi. Ça, c'est
Aussi.
vraiment là, mes personnes âgées isolées en milieu ruraux. Parfois, ils sont encore plus isolés qu'en milieu urbain, pas toujours, hein, ça dépend des communautés, etc. Mais de pouvoir aller avec eux, lire, explorer les livres, leur faire découvrir cette richesse-là, j'adorerais ça. C'est vraiment des clientèles que j'aimerais aller chercher. Je dis clientèle, mais c'est vraiment plutôt des êtres humains que j'aimerais toucher.
Oui, tout à fait. Vous êtes
Oui.
proche d'initiatives nombreuses, documentées, autant dans le milieu universitaire que sur le terrain. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples d'interventions utiles, pertinentes pour contrer ce qu'on appelle la glissade de l'été? Ça, c'est la perte des acquis scolaires qui se produit durant l'été parce que on n'est pas mobilisé de façon suffisante pendant les
Oui.
vacances.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place depuis longtemps, puis peut-être encore plus dans les dernières années, là, pour contrer la perte des acquis scolaires pendant les vacances scolaires, qui touchent particulièrement là, les jeunes des milieux défavorisés ou les jeunes qui n'ont pas la chance dans leur culture familiale, on va le dire comme ça, d'avoir un accès aux livres, un accès à des activités qui vont leur faire mobiliser la lecture, l'écriture, la numératie, compter pendant l'été, etc. Donc, dans les initiatives, il y a beaucoup, beaucoup de municipalités, de villes, etc., qui vont mettre, par exemple, en place des camps éducatifs dédiés aux élèves qui sont plus fragilisés sur le plan des acquis scolaires. Donc, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ces enfants-là sont invités à venir à des camps. Parfois, ils sont gérés même par des enseignants pendant leurs vacances scolaires qui se dédient à ces camps pour, justement, de manière toujours un peu plus ludique, parce qu'on est dans l'été, mais mobiliser les acquis scolaires, tu sais, s'amuser avec les mots, avec les chiffres, etc. Il y a bien sûr le programme LITCAM dont je vous parlais, qui ne se déploie pas seulement en Chaudière-Appalaches, mais dans
Oui,
plein
ailleurs
de régions
aussi.
du Québec, là, sous la responsabilité de différentes instances régionales. Donc, ça permet aux enfants, à chaque semaine ou presque, de vivre des activités de littératie. Ça offre aux camps des albums jeunesse autour desquels ils peuvent travailler, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi tout ce que font les bibliothèques ou les organismes communautaires ou les organismes municipaux. Ils vont mettre en place plusieurs initiatives. Parfois, c'est des clubs de lecture. Parfois, il peut y avoir des journées thématiques, la fête du
Il y a plein de
livre.
choses, plein de choses qui se font déjà.
Ah,
Alors, il faut avoir
plein de choses.
les yeux ouverts. Virginie, en
Plein de
terminant,
choses,
il nous
oui.
reste 45 secondes. C'est
Oui.
la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Beau
Ah,
défi.
c'est la question qui tue, la
Oui.
question difficile,
Oui.
mais je vous dirais l'entièreté de l'œuvre de Marianne Dubuc.
Oui.
Donc, par exemple, Le chemin de la montagne ou Le
Oui.
lion et l'oiseau. Mais si j'ai à dire un album, je vais dire Chez toi, chez moi.
OK.
Parce que comme je m'intéresse aux œuvres illustrées, ben, la lecture de cet album-là, les images parlent d'elles-mêmes et en plus du texte et de l'histoire textuelle qu'on peut lire, on a 1000 histoires qu'on peut se
Ouais.
raconter grâce à l'observation des images.
Alors,
C'est...
mille fois, c'est le chiffre que je retiens. On va
Oui,
mettre
1000
ça,
fois.
tous les liens sur le site de l'émission. Et je vous remercie mille fois, Virginie Martel. Merci de faire voyager les livres pour qu'ils atteignent, rejoignent et surtout touchent les clientèles et les communautés qui sont plus vulnérables, comme vous le dites. Merci
Merci
beaucoup.
Marie,
Grand
merci, puis merci à
plaisir.
vous aussi de faire voyager la
Au
littérature.
plaisir.
Je m'appelle Nicolas et j'ai 10 ans. Moi, je trouve que les livres de Sarah Penny Packer sont très bons et j'ai comme Pax et le Petit Soldat, illustré par John Classen, je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Tribune littéraire. Voici ce que j'en pense.
La chronique Tribune littéraire est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Et aujourd'hui, on retrouve avec plaisir Raphaël Baillargeon, qui a brisé la glace le mois dernier. Bonjour, Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, on rappelle que tu as 13 ans, que tu étudies en deuxième secondaire à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles, l'ESPAT, au profil multisport. Et aujourd'hui, Raphaël, tu nous parles de quoi?
Aujourd'hui, je vais vous parler de Lightfall.
Lightfall, la série Lightfall. Excellent, ouais. T'écoute.
Bonjour, ben en gros, aujourd'hui, je vais vous parler de Lightfall. Lightfall, c'est écrit par Tim Probert aux éditions Gallimard.
Ouais.
Donc, en gros, Tim Probert, c'est un auteur-illustrateur américain qui vit à New York. Il a aussi sorti un autre livre, le livre s'appelle Donjons et Dragons, Donjons Académie, interdit aux humains.
Okay.
Fait que là, il est quand même un peu auteur. En gros, Lightfall, c'est une série de deux, bientôt trois romans graphiques très, très intéressants, autant grâce à ses illustrations qu'à son histoire captivante.
Mm-hmm.
Donc, en gros, son histoire, c'est que Bea, c'est une adolescente un petit peu anxieuse qui vit sur la planète Irpa.
Okay.
Et Bea est confrontée à l'étrange disparition de son grand-père, le cochon sorcier,
ouais,
qui fabrique des potions et qui est gardien de la flamme éternelle.
OK.
Donc, elle décide de partir à sa recherche,
oui,
avec l'aide du courageux Kat, qu'elle a rencontré dans une circonstance quand même assez surprenante. Donc, en gros, Kat, désolé, il est confié à dire le mot. Et les deux ensemble, ils vont aller chercher son grand-père sorcier qui l'a adopté, parce qu'il y a un petit peu des pertes de mémoire. Et Bea est vraiment, vraiment stressée par rapport au fait que son grand-père est tout seul, qui a des pertes de mémoire, qui est vieux, patati patata.
OK, donc, si je comprends bien, Raphaël, c'est une quête. Alors, ils partent,
oui,
ils partent tous les deux, Bea et Cad, ils partent tous les deux pour essayer de retrouver le grand-père cochon sorcier, qui, lui, tu l'as dit tout à l'heure, il fabrique des potions. Il est gardien de la flamme éternelle. Donc, c'est super important pour la planète sur laquelle ils vivent.
Oui, vraiment, vraiment, en gros, la flamme éternelle, c'est des parties du vrai soleil, parce qu'en gros, le vrai soleil s'est détruit à un moment donné, fait que les Galduriens, désolé,
oui,
ils en ont recréé une.
Oui.
Donc, vraiment, c'est des flammes, la flamme éternelle, il y en a 7 ou 8, on ne sait pas sûr, c'est des bouts du feu, mettons, c'est des flammes du vrai soleil, fait que
okay,
c'est vraiment, vraiment important et historique.
OK, c'est pour ça que c'est important. Et pourquoi tu as aimé ça, toi?
Oh, moi, j'ai vraiment aimé ça parce que y a plusieurs raisons. Mais la première, c'est que les illustrations sont magnifiques. Donc, c'est vu que c'est un roman graphique, il y a énormément d'illustrations.
Ouais.
Elle apporte beaucoup plus d'émotions que si c'est un roman classique. Donc,
ouais,
les couleurs sont magnifiques, tout est bien agencé. Et comparé si le Lightfall aurait été un roman graphique, un roman classique.
Un roman, oui.
Oui, c'est ça. Ça aurait été, tant qu'à moi, beaucoup plus plate que s'il y avait les
illustrations. Ça contribue à ton intérêt, à maintenir ton intérêt,
ouais,
c'est ça, hein?
Puis, ouais, beaucoup.
OK, puis t'avais donc plus qu'une raison de ce pourquoi,
ouais,
t'as aimé ça. Je te laisse continuer.
Oui, la deuxième raison, c'est que le personnage de Bea est vraiment, vraiment compréhensible et facile à s'identifier, vu qu'elle est quand même assez jeune, elle pense sensiblement de la même façon que nous. Aussi, troisième raison, c'est que dans le livre, on comprend que Bea a fait un petit peu d'anxiété,
mm-hmm,
quand les choses vont pas comme elle pensait ou comme on pensait, mettons.
Mm-hmm.
Et elle démontre aussi comment réussir à contrôler l'anxiété. Donc, c'est vraiment, personnellement, je trouve qu'on parle pas assez d'anxiété dans les livres pour ados.
Mm-hmm.
Mais quand on en parle, c'est juste pour des fins pédagogiques, puis genre, un peu comme une morale.
Mm-hmm.
Mais dans le livre, Tim Probert, il le fait sans vouloir que ça soit trop moralisateur. Donc, ça donne... C'est pas trop mauvais, mettons, d'avoir de l'anxiété. Il te montre juste comment le contrôler, puis ça peut t'aider.
C'est ça.
Puis, c'est une des raisons pourquoi j'ai résisté encore plus à l'adorer, parce que c'est le fait de parler d'anxiété, puis le fait que ça soit pas trop moralisateur, j'aime vraiment beaucoup,
ouais,
beaucoup ça.
Il y a 3 tomes, hein? Il y a le premier, ça s'appelle « La dernière flamme », puis c'est là qu'on comprend que, puis tu l'as expliqué un peu tout à l'heure, hein, que elle part, elle, à la recherche de son grand-père. Et puis, il y a la lanterne qu'elle a avec elle, elle trimballe cette lanterne-là partout. Son grand-père lui avait dit de ne jamais s'en départir. C'est oui. important, ça, hein, dans le livre?
Oui, c'est vraiment important, car souvent, les ennemis, si je peux appeler ça comme ça, sont souvent attirés par la lanterne. Donc, ils veulent la flamme parce que, ben, c'est pas nécessairement de l'argent, mais genre, c'est très rare, ça vaut beaucoup, ils peuvent l'échanger pour beaucoup. Ouais. Donc, les ennemis sont souvent attirés par la flamme ou veulent la détruire, c'est un des deux. Mais c'est ça, fait que la flamme, la lanterne, désolée, elle est vraiment, vraiment importante dans l'intrigue.
Et elle est importante dans le premier, en tout le moins. Et le deuxième tome, ça s'appelle L'ombre de l'oiseau. Et donc, la quête continue dans L'ombre de l'oiseau.
Oui, en gros, c'est... Oui, tous les livres... Donc, il y a bientôt un troisième qui sort le 31 mai, j'ai vraiment hâte.
Oui, hein?
Mais, et en gros... Le tome 1 va expliquer un peu, et de 2, 3, ça continue l'intrigue. Donc, on change jamais d'intrigue. Donc, en gros, à la fin du 1, on est encore en plein milieu de l'intrigue, et à la fin du 2, on est encore en plein milieu de l'intrigue.
Donc, on est toujours avec elle, avec Béa, dans cette quête. Puis les personnages, le personnage de Cad l'accompagne aussi tout le temps. On a très hâte. Moi, j'ai hâte avec toi aussi. Tu m'as donné le goût de lire cette série-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le fantastique, la science-fiction. C'est dans mes cordes, ça, vraiment. Raphaël, je voudrais te dire merci pour cette chronique. Sur le site de l'émission, on va retrouver les liens vers les trois titres de la série. Tu l'as dit, ça sort au mois de mai, le troisième tome, mais on peut, tu sais qu'on peut le précommander hein, sur le site des libraires.
Ah oui.
Oui, hein? Fait qu'on va faire ça. On va précommander le troisième tome de la série Lightfall. Je répète, c'est Tim Probert qui est l'auteur et c'est édité par Gallimard. C'est ça, hein? Gallimard Jeunesse.
Oui, Gallimard.
Raphaël, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée puis au plaisir d'une prochaine collaboration.
Merci, vous aussi. J'ai vraiment aimé ça.
Bye, salut.
Je m'appelle Emma, j'ai 10 ans. J'aime les livres qui parlent de suspense parce que ben, ça m'intrigue. Puis, si c'est pas un livre qui parle de suspense puis qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans le livre, ben, je vais avoir du mal à continuer ma lecture en étant intéressée. Je m'appelle Aurélie, j'ai 10 ans. J'aime les livres de la catégorie 2 lunes de la collection Noire parce que j'aime le suspense.
Je m'appelle Florence, j'ai 11 ans. J'aime les livres qui parlent de l'environnement parce que j'ai goût de faire changer les choses à ce sujet.
On vous revient après cette courte pause. En seconde partie d'émission, je reçois l'autrice et animatrice Josée Bournival. Laurence Letourneau-Pilon de la librairie Le Sentier de Sainte-Adèle nous propose ses coups de cœur de libraire qui font voyager. Et pour terminer, il y aura des actualités littéraires. Bienvenue en deuxième partie d'Image et mots à voix haute.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Josée Bournival. Bonjour, Josée.
Bonjour Marie.
Bienvenue à Images et mots à voix haute. Josée, vous êtes autrice et animatrice. On vous a entendu d'abord à la radio et puis on vous a vu à la télé, notamment à Salut Bonjour Weekend et à plusieurs émissions sur Canal Vie et sur Canal Évasion. Vous êtes originaire de la Mauricie. Vous avez étudié en arts et technologies des médias au cégep de Jonquière, obtenu un diplôme en scénarisation pour le petit écran de l'Institut national de l'image et du son, c'est l'INIS. Vous êtes la maman de 4 enfants et vous êtes très, très préoccupée par tous les sujets qui touchent la maternité. La série de romans best-seller Bébé Boom, publiée chez Urtubise de 2013 à 2016, en témoigne. Bébé Boom, c'est votre projet de fin d'études à l'INIS. Ça devait être une comédie romantique destinée au petit écran, mais comme le projet a avorté, vous avez décidé d'en faire une série de romans. Vous avez aussi co-scénarisé un documentaire, Saint Alloué, en 2012, qui a été diffusé sur RDI. Vous avez fait du théâtre comme comédienne au début des années 2000. Vous avez également tenu un blog pour Canal Vie à partir de 2010 et vous avez joint l'équipe de Naître et Grandir en 2015. Vous avez publié plusieurs livres. En fait, vous écrivez autant pour les adultes que pour les enfants. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Pourquoi ce choix parmi tous les moyens d'expression et de communication, Josée?
Hey, j'ai l'air vieille hein, quand vous faites la lecture de tout ce que j'ai fait. On dirait que j'ai 1000 ans. Pourquoi l'écriture? C'est une très bonne question, Marie, parce qu'en fait, je pense qu'au départ, ce que j'aimais de l'écriture, c'était la réflexion que ça demandait. Dans toutes les autres formes d'expression que j'ai utilisées, c'était à peu près tout le temps verbal, et donc ça demandait de l'instantanéité, la télé en direct, d'être sur scène au théâtre, d'enseigner. Cette fois-ci, l'écriture, c'est un rythme plus lent qui permet une certaine introspection, un temps de réflexion, le choix des mots, de pouvoir les corriger. Toute cette lenteur-là me fait du bien parce que dans ma tête, ça va très vite.
Ça
Donc,
roule.
Je pense que c'est le premier choix, oui. Mais il y a aussi le fait que l'écriture est entrée dans ma vie au moment où moi, j'ai fondé ma famille. Donc, j'étais soit enceinte avec un bébé accroché au sein en train d'allaiter ou en train d'accoucher carrément. Donc, parce que j'ai eu 4 enfants en 6 ans. Donc, pendant la petite enfance de mes 4 enfants, c'était la meilleure manière de m'exprimer, l'écriture, parce que ça pouvait venir par petites touches à n'importe quel moment de la journée, dans plein de circonstances, plein de lieux différents. Je pense que c'est la grande versatilité, finalement, qui m'attirait.
Ah, c'est intéressant, ça. Puis c'est aussi un moment pour être seule, l'écriture, dans le fond, quand on a 4 enfants.
Mais en même temps, oui, mais en même temps, on peut pratiquer cette forme d'expression-là, même entourée.
Oui, tout à fait.
On peut se faire un petit cocon puis avoir l'impression quand même d'être en interaction avec les autres, mais d'avoir notre petite bulle.
Ouais.
C'est quelque chose de très précieux, je trouve, l'écriture.
Tout à fait. Vous êtes co-auteur de « Histoires qui ont du chien »,« Histoires de filles au chalet »,« Histoires de filles à la télé » et « Histoires de maman », publié chez Goélette. Et vous avez publié en solo « Principes physiques du cœur humain » chez Urtubise, dans lequel vous abordez le thème de la solitude vécue par 4 protagonistes différents. Vous aviez commencé ce texte bien avant la pandémie, vous l'avez mis de côté, ensuite repris au début 2020, interrompu à nouveau et finalement poursuivi pendant le confinement. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a coûté particulièrement aux enfants, aux plus jeunes, cette pandémie?
Oh mon Dieu, tellement de choses, Marie. Moi, j'ai ma grande fille, mon aînée, qui a fait son passage au secondaire pendant la pandémie avec le MAN. Oui. Alors, de venir renouer des relations sociales avec les gens masqués, avec la distanciation, avec évidemment bon, ces longues périodes aussi isolées à la maison, c'est sûr qu'en termes de sociabilité, en termes d'aptitude à communiquer avec les autres, ça a marqué énormément les enfants. Et dans une période charnière où on a besoin d'être en interaction les uns les autres, je pense que ça a coûté l'estime personnelle de plusieurs enfants qui n'avaient plus cette espèce de miroir avec les amis pour évoluer, apprendre à se connaître, développer un sentiment d'appartenance. Mm-hmm. Ça les a beaucoup hypothéqués, je pense.
Oui.
Au niveau de leur estime personnelle, puis en termes d'anxiété pour la santé mentale aussi.
Oui, je suis bien d'accord avec vous. J'aimerais qu'on parle de votre série Zalou, qui est parue en 2022-2023 chez Édito. C'est une série fantastique qui découle d'ailleurs de votre expérience auprès des enfants auxquels vous avez enseigné l'art dramatique. Justement, en 2020, vous inspirant des travaux du psychoéducateur québécois Germain Duclos, on y retrouve une histoire fantastique des aventures où les créatures hybrides, les cristaux magiques, les mots-valises foisonnent. Vous dites que la littérature jeunesse doit servir une cause et ouvrir une discussion avec les jeunes. Quelle cause, on peut mettre ça au pluriel, les 4 tomes de Zalou soutiennent-ils et qu'est-ce que ça vous permet d'aborder avec les enfants?
Bien, pour moi, le grand thème à l'intérieur de Zalou, c'est l'importance de l'estime de soi. C'est pour ça que je me suis intéressée aux travaux de Germain Duclos et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que M. Duclos explique que l'estime de soi, ça repose sur quatre grands piliers. Et c'est comme ça que j'ai construit en fait la tétralogie de Zalou parce que dans chacun des tomes, je donne à mon personnage un outil pour construire son estime personnelle. Alors si je fais le tour là rapidement, les quatre piliers de l'estime de soi sont le sentiment de sécurité. C'est important pour l'enfant de sentir qu'il y a un adulte vers qui il peut se tourner puis qu'il est accueilli, qu'on va l'écouter, qu'il est accepté comme il est. Bien sûr, idéalement, c'est le parent, mais ça peut être un autre adulte significatif. Ouais. Donc, Zalou aura ça dans le premier tome. Dans le deuxième tome, c'est la connaissance de soi. C'est important de vivre plein d'expériences différentes pour apprendre à se connaître, connaître ses forces, ses limites. Tout ça contribue à l'estime de soi. Dans le tome 3, les profondeurs de Céalis, c'est le sentiment d'appartenance que je vais offrir à Zalou. Zalou, c'est un rejet, c'est un jeune enfant qui est mis de côté. Et là, il change de royaume et pour la première fois de sa vie, il rencontre d'autres créatures qui ont des points en commun avec lui. Donc, il développe ce sentiment d'appartenance, l'impression de ne pas être toujours le mouton noir. C'est important pour l'estime personnelle. Et finalement, dans le dernier tome de la tétralogie, c'est le sentiment de compétence qui est mis de l'avant. D'être capable de regarder le chemin qu'on a parcouru, même lorsqu'on est jeune, puis de dire « Hey, j'ai des outils maintenant pour faire face à ce que la vie m'amène. » Alors, exemple, le mois dernier, j'ai fait un examen de mathématiques, je l'ai réussi. Alors, celui qui s'en vient cette semaine, si j'étudie comme il faut, si j'utilise les stratégies enseignées par mon enseignante ou mon enseignant, je vais être capable de relever ce défi-là. Donc, c'est tout ça qui est présenté à travers l'histoire d'un jeune personnage qui est issu d'un monde inventé de toutes pièces qui s'appelle Mandrila. Alors, je pense que la distance, moi, c'est pour ça que j'ai choisi le fantastique, c'est la distance, en fait, au départ que les jeunes ressentent. On ne parle pas de moi, là, c'est pas un jeune garçon qui va à l'école comme moi, il est... mais on peut s'identifier à lui différemment, puis le message n'est pas trop frontal pour l'enfant.
C'est ça.
Donc, le message passe plus subtilement, je trouve.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, les jeunes, quand vous les rencontrez dans des animations, des classes, des bibliothèques ou dans les salons du livre à propos de ce que vous écrivez?
Bien, c'est fantastique, hein, Marie, parce qu'ils ne me parlent jamais de ça. Parce que... Et honnêtement, ça me confirme que j'ai fait du bon travail parce que je ne voulais pas souligner à grands traits la théorie concernant l'estime de soi. Je voulais que ce soit des messages subtils qui passent dans le plaisir. Ouais. Parce que c'est ça d'abord et avant tout, hein, la lecture, c'est un plaisir d'évasion, d'apprentissage et tout ça. Alors, ce dont les enfants vont me parler, c'est des créatures étranges, les hybrides qui peuplent l'univers de Zalou. Ce sont des animaux qui ont fusionné entre eux. Mais je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand un enfant me parle des émotions qu'il a ressenties à la lecture de mes livres. Soit j'ai eu peur à ce moment-là, telle bestiole, je la trouvais épeurante, ou ah, j'ai eu de la peine pour Zalou à tel moment dans l'histoire. Ça me touche parce que les enfants sont très connectés sur les écrans de nos jours. Et c'est vrai que lorsqu'on voit un autre être humain, on peut vivre par procuration ses émotions en voyant son visage, ses expressions. Ouais. De voir que juste des mots alignés sur une page peuvent produire le même effet, ah ça c'est une victoire.
C'est fascinant.
Alors quand les enfants, oui, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent ah j'ai vécu telle émotion ou je me suis sentie comme ça, ah ça là c'est une victoire, c'est vraiment génial.
Et est-ce que votre expérience de comédienne vous aide dans votre travail avec les jeunes?
Oui, parce que j'ai la chance de faire plein d'ateliers dans les écoles via le programme La culture à l'école. Donc, je suis une ressource inscrite au répertoire culture-éducation. Ça m'amène à me promener dans la province, dans différentes classes. Et chaque fois, c'est un spectacle.
Ouais.
Oui, je suis devant une classe, mais c'est comme si j'étais sur scène. Puis l'énergie que ça demande, qui doit être déployée, le corps qui doit se mettre en action. Là, c'est plus juste au niveau des mots. Ça, c'est sûr que tout ce que j'ai appris comme comédienne me sert énormément.
Ouais,
donc, aller chercher mon public, là. Oui, vraiment.
Oui. Vous pilotez actuellement un projet de grande envergure. Ça s'appelle Un bestiaire pour Zalou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce projet-là?
Ah, quel privilège. J'ai eu la chance de recevoir une bourse de partenariat territorial offerte par le Conseil des arts et lettres du Québec. Cette bourse-là me permet de faire un projet qui est en trois étapes, dans le fond. J'ai commencé par la première, c'était une série d'ateliers dans la région, dans les bibliothèques, où j'invitais les enfants à me dessiner des hybrides, les fameuses créatures qu'il y a dans l'univers de Zalou. Moi, je suis repartie avec ces dessins-là, et là, les deux prochaines étapes, c'est de faire un bestiaire papier. Donc, je prends les créatures des enfants et je leur invente une histoire, une description. Je les inclus dans l'univers de Zalou, donc ce sera exposé dans les bibliothèques qui m'ont reçu pour les ateliers. Et le dernier volet du projet, c'est celui qui m'excite le plus, c'est que je vais, avec quelques complices, faire un court-métrage d'animation où on va raconter, dans le fond, comment c'est arrivé, ça, la naissance des hybrides dans l'univers de Zalou, parce que ce n'est pas expliqué dans les livres. Alors, c'est comme un prequel, si on
oui,
veut, comme
oui,
ça.
Oui.
Là. Donc, on va expliquer la naissance des hybrides. Et ce court-métrage-là, dans le fond, ça va être des décors créés, entre autres, par l'illustratrice de Zalou, Valérie Gadebois. Mais on va animer à l'écran les dessins des enfants par ordinateur.
Oh, wow!
Alors, moi, je trouvais ça extraordinaire, sachant que l'objectif de Zalou, c'est de valoriser l'estime de soi des enfants. Ben, de présenter leur œuvre comme ça dans un projet professionnel, ça venait boucler la boucle pour moi. Alors, si tout va bien, là, le court-métrage va être disponible en septembre prochain.
On a très, très hâte de voir ça. Et qu'est-ce qui mijote d'autre dans votre marmite d'autrice? Qu'est-ce qu'on pourra lire bientôt de José Bournival?
Oh mon Dieu, tellement de choses! Alors, il y a Moucha, tout d'abord, qui est une nouvelle série qui se déroule dans le même univers de Zalou, mais qui se lit indépendamment. Donc, Moucha, c'est une jeune guerrière qui a toujours connu du succès, tout lui sourit. Puis un jour, la tendance s'inverse et l'anxiété s'amène dans sa vie. Donc, c'est une trilogie, cette fois-ci, où j'avais envie de parler d'anxiété, particulièrement d'anxiété de performance aux enfants. Donc, le premier tome vient tout juste d'être publié. Il est disponible aux éditions Édito. J'ai un autre superbe projet pour les plus petits, les 6-8 ans, avec Dominique et compagnie. On arrive avec une nouvelle collection qui s'appelle Coup de théâtre et qui, en fait, consiste en de petites pièces de théâtre de lecteurs. Donc, ce n'est pas du théâtre qu'on mémorise et qu'on joue sur scène. C'est du théâtre qui se lit livre à la main. Et l'objectif du théâtre de lecteurs, en fait, il y en a deux, c'est d'améliorer la fluidité de lecture. Les jeunes qui sont en train d'apprendre à lire, mais aussi de favoriser l'expression des émotions. Donc, d'être investi, là, de jouer un personnage lorsqu'on fait la lecture. Donc, le premier livre de cette collection-là s'intitule « Être rat ou pas ?» Telle est la question. Alors, vous comprendrez, c'est inspiré de la fameuse phrase de Shakespeare.
Oui.
D'un tout petit rat qui a peur de ne jamais être adopté dans le refuge où il est, simplement parce qu'il est un rat. Alors, il va essayer de se changer. Les autres animaux vont lui donner des trucs pour le modifier, mais il va se rendre compte qu'il aimerait bien finalement être adopté pour qui il est véritablement.
Mm-hmm.
Donc, c'est drôle, hein, parce que sans même m'en rendre compte, c'est comme si j'avais, encore une fois, pour les plus jeunes, écrit une histoire sur l'estime,
de soi. Encore une fois, c'est un thème qui revient, c'est ça. José? C'est la tradition, à Images et mots, à voix haute, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse en terminant. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
Et c'est difficile d'en choisir
un seul. Oui.
Mais je vais y aller avec Lily Jade, tome 1, Pro des animaux, d'Audrey Archambault. C'est un livre publié aux éditions La Bagnole, magnifiquement illustré par Simone Duchesne. Ce que j'aime bien de cette histoire-là, en fait, c'est que c'est inspiré au départ de la vie de l'autrice. Audrey Archambault a été bénévole à la SPCA. Elle s'est occupée des animaux. Et le livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui espère adopter un animal. Et pour prouver à sa mère qu'elle est responsable, elle devient bénévole à la SPCA.
Ah.
Et elle fait un journal, finalement, des animaux qu'elle rencontre et de toute son expérience là, dans un refuge. Ce que moi, j'ai aimé, c'est que ça a fait lire ma fille de 10 ans, Blanche, qui n'aime pas particulièrement les romans, mais la mise en page est tellement dynamique. C'est présenté là, sous forme de journal avec des fiches animalières, des photos, de véritables images de bêtes qu'Audrey Archambault, l'autrice, a...
dont elle a pris soin.
En tâche, oui, si on veut, lorsqu'elle était bénévole. C'est vraiment un chouette livre, puis... Je pense que c'est plus facile pour certains enfants qui ont moins d'attirance pour les romans, pas d'images, comme les enfants me disent souvent dans les salons de livres. Mais je pense que c'est un beau compromis là, avec ce livre-là qui s'adresse, je pense, aux 9-12 ans.
Excellente suggestion que les auditeurs vont pouvoir retrouver sur le site de l'émission. Merci, José Bournival. Merci pour votre énergie de promouvoir aussi auprès des petits et des grands des principes comme la bienveillance, l'estime de soi, le respect, l'ouverture à l'autre, ce sont des valeurs sûres. Merci beaucoup et au plaisir.
Merci beaucoup, Marie.
Je m'appelle Ariel et j'ai 9 ans et demi. Moi, mes livres préférés, c'est la série La curieuse histoire d'un chat maribou, écrite par Marie-Renée Lavoie. Il y a beaucoup d'aventures dans ces livres et c'est ce que j'aime le plus.
La chronique coup de cœur des libraires.
On accueille maintenant Laurence Letourneau-Pilon de la librairie Le Sentier à Sainte-Adèle. Bonjour Laurence.
Bonjour Marie.
Laurence, vous nous avez déjà présenté des livres dont le lecteur est le héros. Vous nous avez présenté des lectures d'été pour rêvasser, se détendre. Aujourd'hui, vous nous faites des suggestions sur le thème du voyage, des vacances, de l'aventure. On vous écoute.
Exactement. Donc, je me suis plongée en fait dans des thématiques plus d'été. On sent le soleil arriver à grands pas. Puis, on a une nouveauté qui est arrivée en librairie en fin mars, un livre qui se nomme « Les champs de vacances avec Henri Godon » de Denise Massé et Fabio Pellegrino aux éditions Planète Rebelle. Et Planète Rebelle sont quand même assez connus pour faire des livres avec une trame sonore. Mmh. Donc, des livres où on va avoir... Il fut un temps, c'était des CD, mais maintenant, c'est des en fait, codes QR.
Oui, oui, tout à fait.
À voir, justement, comme deuxième outil du livre, soit pour faire vraiment la lecture audio ou vraiment pour avoir une trame sonore lors de la lecture du livre. Donc, l'histoire d'Henri Godon, c'est fantastique. C'est une famille qui va partir en périple, en camping pendant leurs vacances d'été. Puis, lors du camping, chaque jour, ils vont faire en fait une différente activité. Ils vont aller au musée, ils vont aller au festival. Et lors du festival, ils vont rencontrer Henri Godon, qui est un chanteur que la famille apprécie beaucoup. C'est vraiment fantastique. Je suis une fan des illustrations. J'ai écouté la liste de musique. C'était fantastique. J'adore. Je vous le conseille. Une belle lecture en famille.
D'accord.
Ensuite, pour les fanatiques de bandes dessinées, j'ai deux bandes dessinées que j'ai vraiment appréciées. Donc, la première, c'est Élie et Gaston. Donc, Élie, en fait, est une jeune fille qui va déménager pour l'été, va aller habiter chez sa grand-mère. Ses parents, cette année, n'ont pas eu l'opportunité de prendre des vacances. Mm-hmm. Puis, elle va y aller avec son chat, Gaston. Et malheureusement pour elle, mais heureusement finalement, sa grand-mère n'a ni télévision, ni Internet, ni rien. Et elle va devoir vivre dans le bois, découvrir la nature. C'est une BD extrêmement jolie, beaucoup de couleurs, mais aussi ça fait découvrir justement un autre aspect des vacances qu'on connaît peut-être un peu moins maintenant.
Un beau défi.
Oui, exact. Et la deuxième bande dessinée, c'est Un été d'enfer de Vera Brosgol aux éditions Rue de Sèvres. Une bande dessinée qui met en vedette une jeune fille qui va aller pour la première fois dans un camp de vacances.
Mm-hmm.
Puis, c'est assez comique, c'est cocasse, puisque notre personnage, en fait, elle est russe, puis elle est déménagée aux États-Unis et ne connaît pas vraiment, tu sais, ça fait quelques années qu'elle est aux États-Unis, mais elle a quand même un choc culturel. Puis ses parents, puis avec c'est sa décision, demandent, en fait, elle demande d'aller dans un camp vraiment dédié à apprendre le russe.
Mm.
Donc, ça va être un autre choc qu'elle va vivre, puisqu'elle se rend compte que dans sa famille, c'est pas nécessairement ce qu'on voit, en fait, dans les groupes culturels des jeunes qui sont des immigrants de Russie. Puis c'est assez rigide. Elle va quand même être un peu traumatisée. Elle va pas nécessairement apprécier son moment, mais finalement, t'sais, contente de vivre son expérience. Les illustrations sont en noir et blanc, mais c'est super adorable, beaucoup de naïveté dans le dessin. N'importe quel jeune de à peu près 7-8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans va vraiment apprécier et c'est très, très drôle.
Okay.
Voilà. Puis ça donne un petit aspect aussi pour comprendre un peu c'est quoi un camp de vacances.
Oui.
Ça prépare. Donc, ça peut être une belle lecture si un de vos, un enfant, un élève va dans un camp. C'est une bonne suggestion.
Mm-hmm.
Puis, j'ai deux autres suggestions de documentaires.
D'accord.
Qu'on n'aborde pas nécessairement dans nos coups de cœur. Habituellement, les bras, c'est pas nécessairement les coups de cœur qu'on va ressortir. Le premier, c'est un coup de cœur qui date de quelques années déjà. C'est Benoît Archambault
Oui.
Qui a écrit ce documentaire-là qui s'appelle « Quand est-ce qu'on arrive? ». Il y a deux tomes de cette série-là. Mm-hmm. Le premier que je vous conseille, c'est le livre sur l'histoire du Québec pour toute la famille. Donc, c'est vraiment comme un road trip qu'une famille va vivre au Québec. Puis, on va vraiment se déplacer de ville en ville et on va apprendre en fait des faits historiques sur les villes. Mais il y a aussi des passages de bandes dessinées. Puis après ça, des images avec vraiment des descriptifs, vraiment plus sous forme de documentaire. Donc, c'est vraiment un bel hybride. J'ai vraiment un petit coup de cœur, puis je trouve que ça se porte bien à vraiment un grand éventail pour les jeunes de 4 ans jusqu'à 14 ans. Pour vrai, on apprend, même les parents vont apprendre des faits intéressants sur exemple Saint-Jérôme qu'on ne va pas nécessairement voir.
Ouais.
Et je finalise avec La beauté du monde, qui est un magnifique album où on va voyager partout à travers le monde. Puis, en fait, on a des thématiques de quelle est la forme de notre moyen de transport. Donc, est-ce qu'on va être à pied, en vélo, en bateau ou en train? Puis, c'est des super, en fait, destinations. Les illustrations sont magnifiques. C'est un très beau documentaire de Gallimard Jeunesse. Donc, voilà.
Donc, plein d'idées pour voyager puis pour nous donner le goût d'être en été et en vacances. Je vous remercie, Laurence. Merci pour les suggestions qui se retrouvent toutes sur le site de l'émission, d'ailleurs. Et je le répète, vous êtes une libraire en feu, dynamique et toujours, toujours pertinente. Au grand plaisir d'une prochaine rencontre.
Merci, Marie. À bientôt.
À bientôt.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 7 ans. Quand j'écris de la poésie ou j'en lis de la poésie, c'est comme si dans mon cœur, ça explose dans l'université.
Des actuels littéraires!
Encore quelques idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 28 avril, à Marie raconte, je lis « Quel est mon super pouvoir? » de Aviak Johnston et Tim Mack, des éditions Les Malins. Dans cet album, écrit par une autrice du Nunavut, on découvre une petite fille, Nalvana, qui habite avec sa mère dans un village du nord du Canada. Tous ses amis semblent avoir un super pouvoir. Nalvana, elle, rêve de découvrir le sien. On écoute un extrait. Nalvana était contente pour ses amis. Ils avaient tous trouvé ce dans quoi ils étaient bons. Elle aimait leur annoncer qu'ils avaient un super pouvoir et elle aimait les voir sourire. Ils semblaient tous si heureux d'avoir un talent spécial. Mais Nalvana aurait aimé connaître son super pouvoir à elle. Aujourd'hui, 21 avril, de 10h à 16h, se tient le Salon littéraire Drummond au Centre communautaire Drummondville Sud. On pourra y rencontrer plus de 145 auteurs, dont 34 du Centre du Québec. Mardi 23 avril, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Sur le site, il y a le lien qui explique pourquoi cette date symbolique pour la littérature universelle a été choisie par la Conférence générale de l'UNESCO. Du jeudi 25 au dimanche 28 avril, c'est la 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord à l'aréna Guy Carbonneau, à Sept-Îles et un peu partout dans la région. Du vendredi 3 au dimanche 5 mai, se tient le Salon du livre de Mirabel au complexe Val d'Espoir à Mirabel. Prenez note que le Salon du livre de Cap-Saint-Ignace, qui devait avoir lieu les 3 et 4 mai, a dû être annulé faute de participation suffisante des auteurs. Samedi, le 4 mai, de 9h à 16h, aura lieu le colloque « Plongée au cœur de la littérature » au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, au 150 Place Charlemagne. L'AQEP, en partenariat avec la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et le mouvement « On a tous besoin d'histoire », qui est un de nos collaborateurs, propose une journée de formation stimulante sur la littérature jeunesse avec conférences, exposants et ateliers collaboratifs. Un rendez-vous, j'y serai, j'espère que vous aussi. Les autrices Amélie Dumoulin et Isabelle Larouche sont les lauréates de la résidence Paul Davelui 2024 à la rencontre de jeunes du secondaire. Soulignons qu'Amélie Dumoulin s'immergera dans le quotidien des élèves non et malvoyants de l'école Jacques Ouellette à Longueuil afin de s'en inspirer pour une prochaine création. Je mentionne deux activités jeunesse gratuites en marge du festival Métropolis Bleu. Une entrevue avec Anne-Marie Fortin le 22 avril de 10h à 11h à la bibliothèque de l'Île des Sœurs et de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque de Saint-Michel et une heure du conte autochtone avec Marco Collin le 25 avril de 14h à 15h à la bibliothèque de Saint-Michel. En terminant, deux mentions spéciales, le livre « Les couleurs d'Ophélia » de Sarah Ménard et Charlotte Rudel, publié chez Isatis, a été retenu par le comité de lecture DIBI Canada pour l'édition 2025 du programme de livres exceptionnels pour les jeunes en situation de handicap. Et je félicite finalement Sydney Smith, illustrateur canadien de « Je parle comme une rivière » notamment, pour le prix prestigieux Hans Christian Andersen 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs de cet épisode. Virginie Martel, professeure-chercheure à l'UQAR et conductrice de Jack, le limier voyageur. Raphaël Baillargeon pour sa tribune littéraire. L'autrice et animatrice Josée Bournival. La libraire jeunesse Laurence Letourneau-Pilon. Michel Brûlé pour le soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines.